tête sanguinolente, molle comme une omelette. Les machins qui se traînent, ni chenilles, ni humains. Les trucs pas câlins qui ont toujours super faim, bref, les monstres.
Vous êtes toujours sur 666, vous êtes toujours dans l'émission Aleph. Et c'est toujours donc la revue de presse BD franco-belge. Et ben pas si franco-belge pour le dernier titre de cette revue que nous faisons avec BD Rare. C'est un bouquin, c'est un monstre, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle
un pavé,
un roman graphique dont la couverture m'avait attiré le regard et je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Donc je vais vous parler de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier, donc il y a au moins deux tomes. De Emil Ferris. Alors du coup, on est sur dans la bande dessinée américaine puisqu'il s'agit d'une œuvre qui a été publiée aux États-Unis chez Fantagraphic, qui est donc l'une des grandes maisons d'édition underground de comics spécialisées dans les romans graphiques. Ils ont fait plein de trucs, beaucoup de choses qui ont été publiées en français. Et du coup, donc Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, donc qui est le titre de cette œuvre, nous arrive en France précédé d'une réputation sulfureuse. Enfin, voilà, c'est le grand événement. Et a priori, vu comment ça part comme des petits pains, il y a eu un relais, hein, au niveau des libraires, au niveau des spécialistes BD qui peuvent conseiller plus ou moins à des gens des bandes dessinées. Et après lecture de cette première partie, faut bien dire que c'est du lourd. Alors, de quoi parle donc Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est une histoire vaguement biographique, hein, on s'y attarde pas vraiment, d'une jeune fille qui s'appelle Karen Reyes, et ça se passe dans les années 60 à Chicago. Et la jeune fille en question est une amatrice, elle adore ça, donc des romans EC Comics, enfin des comics EC Comics, Creepy et autres, dont on parlait dans la revue nécrologique du début de cette émission, avec Marie Sévrin.
Voilà, tout à fait. Hein,
comme quoi, on y revient. Alors, qu'est-ce que EC Comics EC Comics est le représentant, en tant que maison d'édition, de cette grande vague de comics d'horreur qui a eu des années 50 aux années 60 aux États-Unis, avec des Hunt of Fear, Tale of Madness, enfin, voilà, toutes ces histoires horribles, genre ce massacre où les méchants gagnent à la fin. Et cette gamine-là, elle adore ça, donc elle dit que ça. Et du coup, elle voit le monde à travers, effectivement, cette vision apportée par les comics. Donc du coup, elle-même s'imagine, se représente en tant que loup-garou. Pourquoi est-ce qu'elle se représente en tant que loup-garou? Parce que son frère, son grand frère, hein, qu'elle adore, lui, il est que tatoueur de tout. C'est quelqu'un qui l'a emmené très tôt dans différents musées et qui lui a donné le goût du dessin. Et donc du coup, elle a des petits carnets, cette jeune fille, où elle se dessine elle-même et elle dessine tout ce qui lui arrive.
À noter que tout le roman graphique est présenté avec un format carnet.
C'est-à-dire
qu'on a les perforations,
les lignes en fait d'écriture,
et la spirale.
Et la spirale, donc on est vraiment dans un médium qui rejoint l'objet de quoi il parle. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. Et en dehors de ça, donc cette jeune fille, à travers ce regard un peu halluciné, parce qu'elle est pas très bien dans sa tête quand même, décrit son monde, ce qui lui arrive, les gens qu'elle fréquente, le fait en fait que comme elle se prend elle-même pour un monstre et qu'elle a un goût un peu bizarre des designs et tout, donc elle adore tout ce qui est sanguinolent, qui pue, enfin voilà. Et le fait est que les autres gamins lui jettent des trucs dans la figure, enfin voilà, ça se passe quand même pas très bien à l'école. Et du coup, donc, elle nous raconte en fait sa vie à l'école, son quotidien, donc sa vie avec sa famille, sa mère, ses voisins et autres. Et donc, du coup, cela suffirait déjà à créer une chronique, je dirais, un peu étonnante, un peu inattendue, un peu décalée par rapport à la réalité. Si ce n'est que tout autour, donc au moment de l'histoire, très rapidement, quand vous commencez ce premier tome, il y a un meurtre. Voilà, il y a une de ses voisines qui s'appelle Anka Silverberg qui est assassinée. On ne sait pas trop. Elle est assassinée de manière très mystérieuse. Et donc, du coup, la gamine, comme dans les histoires de comics de détectives qu'elle a pu voir, elle va se mettre son chapeau et un par-dessus et elle va commencer à enquêter. Et du coup, à partir de là, elle va faire plein de rencontres bizarres et le monde dans lequel elle vit va commencer à se déliter parce qu'effectivement, quand on cherche des réponses, et ben en fait on les trouve et elle va apercevoir qu'il y a plein de non-dits en fait hein, dans sa vie de tous les jours. Sauf que elle, étant une gamine de 10 ans, et ben elle comprend pas forcément ce qui se passe. Voilà. Et donc du coup elle a des flashbacks, elle se dit ah oui mais ça me rappelle tel truc que j'ai vu. Et c'est vous en fait en tant que lecteur qui commencez en fait à vous poser des questions sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, au moment où Anka Silverberg en fait a été assassinée. Voilà. Et du coup on a.
C'est suicidé au départ.
Oui, elle s'est suicidée, mais on s'aperçoit très rapidement qu'il y a un truc. Il y a des choses bizarres.
Mais même elle y croit pas,
ouais,
d'emblée.
Voilà, mais parce qu'elle est déjà dans... Ouais, parce qu'elle est déjà dans un univers fictif. Pour elle, ça peut pas être un suicide normal. Parce que voilà, la vie c'est une BD quoi. Donc du coup il y a forcément des choses. Voilà. Donc c'est quand même une masse hein, à lire. Alors je ne sais plus, ça doit faire quelque chose comme 800 pages ou un truc comme ça, tout cassé.
800 pages, oui.
800 pages, donc 34,95€, enfin voilà, dans les 35€ si je ne me trompe pas. Et ça paraît en plus chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, auditeur dont on a déjà eu l'occasion de parler, puisque nous avions eu l'occasion de dialoguer avec Matt Kint, donc qui est un scénariste américain sur une autre série qu'a sorti en fait Monsieur Toussaint L'Ouverture. Bref. Voilà. Et donc du coup. C'est à travers ce meurtre, on va vous parler de Chicago, de cette époque des années 60, hein, avec effectivement les différentes populations qui se mêlent, avec cette violence, avec la drogue, avec tout ce qui se passe. Et ça, déjà, ça serait impressionnant. Mais il y a encore quelque chose en plus. Hein, il y a plusieurs choses qui font de cette œuvre quelque chose d'assez étonnant. Il y a le style graphique d'Emile Ferris. Alors, cette jeune femme. A un style de dessin qui est juste impressionnant. Il faut savoir qu'effectivement, donc toute la BD a été faite au crayon, au bic. Donc avec des coloriages qui sont faits au stylo vert, au stylo rouge, enfin avec une puissance de description, avec une capacité de passer d'un genre à l'autre. D'un type de narration à un autre, qui fait que très rapidement, cette œuvre-là, elle est dense, elle semble parcourir, je dirais, toute l'histoire de l'art, puisqu'effectivement, la jeune fille va nous parler au départ, effectivement, des influences bande dessinée qu'elle dessine, dont elle s'inspire, donc on a une apparence un peu de récit d'horreur, de DC Comics, et puis elle va nous parler aussi de tableaux, puisqu'en fait son grand frère l'emmène dans des musées, dans les grands musées en fait de Chicago, donc du coup l'auteur va représenter des tableaux, mais faits au stylo, c'est juste assez incroyable. Voilà, donc on est à la fois...
Oui, les reproductions sont surréalistes et... Alors en plus, comme tout est fait au bic, on finit par se demander s'il a fait un crayonné avant. Parce que c'est vrai que tout est vraiment voulu comme la présentation sous forme de carnet. Le travail du dessin, c'est vrai qu'il y a un moment où on se demande quelle est la part de préparation, de spontanéité. Le lettrage, par exemple, qui est entièrement manuel. Toute cette manière de partager ses chapitres avec des couvertures, des fausses couvertures de comics d'horreur en couleur, parce qu'elle le fait au bic, mais avec une panoplie de couleurs de bic qui fait qu'elle peut reproduire des tableaux de couleurs avec en ayant utilisé, déjà, je pense qu'il n'y a pas une couleur de bic qu'elle n'a pas achetée. Hein,
voilà.
Et des dégradés faits au bic qui sont absolument surréalistes, des mélanges de noir et blanc, de couleurs, parfois. Il y a des pages où on se rend compte que la colorisation au bic, ça lui a pris autant d'heures que le dessin. Enfin,
et c'est vraiment
surréaliste.
Voilà. Il y a ça. Donc il y a aussi des ruptures de narration. C'est-à-dire, à un moment donné, vous êtes dans des cases de bande dessinée. La page d'après, vous êtes sur des pleines pages. Elle va reproduire des tatouages. Donc l'auteur va reproduire des tatouages. Elle va refaire des tableaux. Elle va faire des plages où il n'y a que du texte. Enfin, voilà, vous êtes tout le temps, vous passez d'un genre à l'autre, dans un récit, mais qui est juste hyper dense. C'est vraiment, comme je disais à Tony, pour lire ce truc-là, faut se poser, et avoir quelques heures devant soi parce que c'est dense.
Voilà. Donc moi du coup j'ai pas fini le tome. Je sais que je le finirai parce que pour l'instant j'ai un peu du mal à rentrer dedans, mais graphiquement ça me parle à 200%. Que c'est assez verbeux, donc effectivement comme tu dis, c'est pas le fait de dire il faut que je l'ai fini ce week-end. Avec un week-end chargé, c'était compliqué. Mais à la fois, ça fait partie des lectures qu'on ne veut pas bâcler. Parce que on sent qu'il y a une spontanéité, une...
Il y a un engagement. Il y a quelque chose qui rayonne de ce bouquin. Enfin, il y a une puissance.
Une première œuvre qui remporte 4 Eisner Awards.
Voilà.
Oui, c'est pas tous les jours.
Je n'en avais pas parlé encore. Effectivement. Alors, donc, qu'est-ce qui participe aussi à la légende ? Donc, je vous laisse sur ce premier tome. J'en dirai pas plus sur l'intrigue, puisque du coup, à la fin du premier tome, on dit voilà, mais qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant quand même. Même si au milieu du récit, pour moi, il y a un petit moment où le rythme est moins bon. On se dit mais qu'est-ce qu'elle veut faire ?
Bon, mais c'est peut-être le milieu quel quart en fait.
Ouais, voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais arrivé à 400 pages et que là j'ai eu une petite baisse d'attention. Je sais pas. Hein. Mais oui, alors autour de ça, il y a, et donc faut en parler un peu quand même, Émile Ferris, qui a un destin juste hallucinant, hein, ce qui participe aussi, je dirais, au côté, il faut lire cette BD, puisque en fait, elle n'est pas. Donc elle était illustratrice quand même, à la base, et il lui arrive donc un grave accident. Voilà. Donc elle se retrouve coincée au lit. Pendant plusieurs semaines avec une rééducation quand même compliquée, elle est quand même passée à deux doigts de la mort quand même, et donc du coup on lui dit non, vous remarcherez plus, voilà. Et donc à force de volonté, c'est à ce moment là qu'elle va faire cette œuvre. Voilà. Donc vous imaginez couché dans un lit avec à moitié paralysé, en train de dessiner ce truc là voilà, c'est juste un truc de malade. Voilà. Donc c'est un projet donc qu'elle a mené de bout en bout, qui en fait elle a démarché énormément d'éditeurs. Son projet a été refusé quelque chose comme 48 fois ou un truc. Mais
ce qui est logique, hein, elle arrive dans un milieu où on vous dit oui, alors on va commencer par 4 épisodes de 24 pages et vous voulez en faire 900.
Ouais.
Bien sûr.
Parce qu'elle n'avait pas du tout pensé en chef. Enfin, si.
On va vous prendre un scénariste, on va vous prendre un coloriste, un encreur. Ah non, j'ai tout fait toute seule au bic.
Voilà.
Techniquement, le projet ne rentre dans aucune case, même pour Fantagraphiste, qui est quand même le spécialiste de ce qui ne rentre pas dans les cases.
C'est un pur ovni. Donc, du coup, effectivement, 6 ans pour réaliser cette œuvre-là. Et on comprend comment elle a pu y passer 6 ans. Et donc, 48 refus auprès des éditeurs avant que Fantasgraphique lui dise on va le tenter. Ça fait une œuvre assez puissante. Je ne sais pas si ça a bien marché aux États-Unis, en tout cas au niveau des ventes. En tout cas, ça a été couvert de récompenses. Donc, les Eisner Awards, en avoir 4 d'un coup pour une première œuvre, pour
En avoir 4 d'un coup,
déjà. J'en avoir 1, c'est déjà. Voilà. Il y a des gens qui se battent pour ça. 4 d'un coup sur une première œuvre, c'est un truc hallucinant. Voilà. Et donc, du coup, on va parler aussi de Monsieur Toussaint Louverture. Parce que si vous imaginez que effectivement c'est compliqué à vendre aux États-Unis, puisque du coup vous avez une œuvre de 800 pages qui vous arrive dans les boutiques de comics pour pouvoir le vendre quand même, ça peut se vendre qu'avec du bouche à oreille, qu'avec une grande confiance dans votre vendeur BD, le projet a été repris donc en France par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui sont habitués à faire des trucs bizarres, hein, quand même. Mais là, faut quand même vous imaginer, et là, grosse performance quand même pour le Monsieur Toussaint Louverture, c'est que comme le disait Tony, le lettrage, il est fait à la main. Donc il faut imaginer que tout le lettrage en fait de cette œuvre a été refait en français. Et c'est pas une simple on va remplacer du time romance avec un autre lettrage. Non, il y a un graphiste qui a repris toutes les pages et qui a refait tout le lettrage en français. C'est juste hallucinant. Voilà, donc grosse performance. Voilà, je dirais comme Tony, bon, il y a des moments où je suis pas rentré dedans, mais rien que pour la performance, pour l'envie qui suinte de ces, enfin voilà, c'est une œuvre, si vous aimez la bande dessinée, qui vous laissera pas indifférent, parce que en tout cas c'est une démarche hallucinante. Voilà, c'est plus qu'une BD, c'est voilà, on accède à une œuvre à part entière. Voilà.
Voilà. Et puis bon, c'est aussi un livre à voir, tout simplement parce que c'est un livre qui se relit. Je pense que c'est tellement dense, tellement complet, et finalement tellement inimitable, que finalement un jour ou l'autre, on va avoir envie de s'y remettre.
Parce qu'on n'aura pas tout compris, effectivement.
Voilà. Et que c'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que ça nécessite quand même une certaine habitude de la bande dessinée.
On n'y arrive pas par hasard.
On est plus proche par moment du texte illustré que de la bande dessinée. Il n'y a pratiquement pas de recours aux bulles, par exemple. Donc voilà, c'est quand même une œuvre qui est atypique. Et puis bon, voilà. Mais bon, ça fait bien dans les dîners, même Le Monde a dit qu'il avait adoré.
Alors si Le Monde a dit qu'il a adoré,
écoute. Non, mais voilà. Et puis bon, meilleur album, meilleur auteur, meilleur coloriste, et je ne sais plus ce qu'est le quatrième, quand même, on est dans une œuvre d'exception.
Les Star Awards, c'est comme le prix d'Angoulême. Quand il y a un auteur qui récupère plusieurs, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil quand même.
À une différence près. Oui. C'est que quand arrivent les prix d'Angoulême, il y a toujours une polémique. Ah. Les Snyder Awards, en général, la vie est quand même assez unanime.
Il
n'y
a pas une polémique sur le fait que les Valiant soient dedans, non ? J'ai du mal à comprendre.
C'est petit.
Voilà. Donc, non. Reprenons. Nous avons présenté
Charlotte Impératrice
de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme, le tome 1, La Princesse et l'Archiduc, un récit historique dans la veine en fait de films comme Cécile Impératrice, où on suit la maturité d'une jeune fille qui va être appelée à avoir un destin à la fois très tragique et très fou, en fait. 68 pages, du très bon récit historique, avant d'arriver sur un second tome qui, à mon avis, va être un peu plus violent. On a aussi, vous a parlé de La Mort Vivante, d'Olivier Vatine et de Varanda, une histoire de science-fiction très steampunk qui se passe au milieu d'un grand château hanté, où en fait deux scientifiques essayent de ressusciter une jeune fille qui est décédée. Le problème, c'est qu'on ne défie pas sans risque les frontières de la mort. Et enfin, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier, d'Emile Ferris, qui est sorti aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Une biographie décalée d'une jeune fille des années 60 qui vit à Chicago, qui se prend pour un monstre et qui va se retrouver à enquêter sur un crime qui s'est passé dans son voisinage. Voilà. Donc, et pour répondre à la question rituelle, celui que j'ai bien aimé, ben, c'est moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
Voilà. Alors, techniquement, j'ai aimé les trois. Enfin,
pour des raisons différentes.
Celui que j'ai peut-être le moins, sur lequel je suis le moins encore sûr de mon jugement, c'est moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et paradoxalement, c'est celui que je garderai également.